La parole du jour avec Paul Rodier.
Chers amis de Radio Grand Ciel, bonjour. Hier, je vous ai rapidement présenté la biographie de Franz Stock. Je vous propose maintenant d'approfondir la connaissance de sa pensée et de son action. Voici ce qu'il écrit dans son discours d'adieu aux séminaristes du séminaire des Barbelés du Coudray, le 26 avril 1947. Je cite. « Le nombre de saints voulus par Dieu suffit à sauver une époque. Des saints qui se vouent à cette vocation et qui transforment en vertu les agissements de notre temps. Des saints qui renoncent aux amours humaines et qui savent à quoi ils renoncent, qui, par le spectacle et l'exemple de leur vie, poursuivent le chemin de l'ordre humain. Des saints qui n'ont pas peur des catastrophes ni des révolutions, mais qui savent profiter de toute occasion et orientent tout leur être vers le second avènement du Sauveur. Des saints qui réconcilient l'attachement à leur patrie charnelle et l'amour pour l'humanité par-delà les frontières des nations, des empires, des races et de classes. C'est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté par la voie de l'histoire, et nous devons le suivre pour apporter au monde le message de liberté et de paix, de salut et d'amour. 2 ans après l'ouverture de ce séminaire unique au monde, Franz Stock s'adresse aux jeunes théologiens qui vont être ordonnés prêtres dans leur pays retrouvé, pour la plupart après 7 ans d'absence. Il leur présente un programme de vie exigeant à la hauteur du défi qui leur est lancé, reconstruire l'Église allemande persécutée, un pays en ruine, ravagé par le nazisme et la guerre. C'est un discours qu'il a longuement travaillé, documenté, mûri et vécu par Franz lui-même depuis son ordination sacerdotale. Un monde nouveau est né après les bouleversements provoqués par le nazisme et la guerre. Toujours dans ce même discours, il écrit, je cite, « Quand un tremblement de terre ébranle une ville, les clochers s'écroulent en même temps que les monuments et les maisons. Quand une crise économique et sociale bouleverse le monde, les institutions et la vie de l'Église ne restent pas indemnes, car elle ne peut exister à l'écart de l'histoire générale. » L'abbé prêche un renouveau de l'Église pour qu'elle se présente comme le modèle idéal d'une communauté, puisqu'elle est fondée sur le corps mystique du Christ, pour qu'elle incarne dans le temps et l'espace le message évangélique. Face à toutes ces horreurs qu'ils vont découvrir et devoir affronter à leur retour dans leur pays, Franz Stock les prévient, je cite, « Notre monde a changé et vous serez effrayés à la vue des bouleversements que cette guerre a provoqués dans les âmes et dans les esprits des hommes. » Ce texte visionnaire, appel vibrant à la sainteté, peut-être éclairé par son grand inspirateur, le prêtre et théologien Romano Guardini, qui écrit en 1923 dans la lettre du lac de Côme, je cite, « Qu'il nous soit possible de nous élever jusqu'à Dieu avec notre être le plus profond, de passer jusqu'à lui, prenant appui sur lui sa liberté, sa puissance, de nous rendre maîtres du chaos. Enfin, qu'il se trouve des hommes pour se mettre entièrement à la disposition de Dieu, et dans la solitude, avec lui et devant lui, qu'ils assument des décisions qui comptent. Je crois que je sens toutes ces forces à l'œuvre. » Franz Stock a apporté sur les hommes, les situations et les événements un autre regard dans un contexte où tout portait au nationalisme, au racisme, à la guerre. Il ne s'est pas laissé déconcerter, désemparer, dérouter par la faillite provisoire du courant pacifiste, travaillant au rapprochement de la France et de l'Allemagne entre 1920 et 1933. Comme une rivière souterraine, ce courant ressurgira après 1945, plus fort encore, pour sceller la réconciliation franco-allemande des années 60. L'abbé Stock n'appelle pas les futurs prêtres à faire des choses extraordinaires. Son appel à la sainteté est un appel au devoir de fidélité à la mission reçue, selon son état de vie. Il répond à ceux qui lui adressent des louanges pour les avoir aidés. « Je fais simplement mon devoir sacerdotal rien de plus. Il répond aux appels et aux attentes de ceux qui le rencontrent, allemands ou français. Il est pasteur du peuple de Dieu en temps de guerre. Ce discours d'adieu est en harmonie avec les réflexions de Joseph Folier, celui qui, en 1960, souhaitera que l'on présente Franz Toc comme le type de sainteté que requiert le monde d'aujourd'hui. Franz Toc écrivait dans ce même écrit destiné aux séminaristes qui quittaient les séminaires des Barbelés cette phrase qui résonne encore dans le monde d'aujourd'hui, distinguant les disciples de l'Évangile, chacun à leur manière et selon leur talent, sel de la terre, levain du royaume dans la pâte humaine, artisan de paix dans un monde mondialisé. Je cite. Des saints qui réconcilient l'attachement à leur patrie charnelle et l'amour pour l'humanité, par-delà les frontières des nations, des empires, des races et des classes. Dans un sermon du 5 septembre 1937, il écrivait « Est-ce pensable que, sous l'image de Saint-Michel, patron de la France et de l'Allemagne, témoin de tant de luttes et de discordes entre nos deux peuples, les cœurs soient incapables de se retrouver dans un respect réciproque et dans la paix ? Saint-Michel, aide-nous dans ce combat, nous sommes prêts. » Il lui faudra attendre d'être nommé supérieur du séminaire des Barbelés pour invoquer publiquement le patronage de l'archange et de peindre lui-même une fresque dans la chapelle du séminaire représentant la Vierge et Saint Jean au pied de la croix, de part et d'autre Saint Boniface, apôtre de l'Allemagne, et Saint Michel, patron des deux pays à réconcilier, que l'on peut encore voir au Coudray. Sa célébration de la messe quotidienne a frappé certains témoins qui, pendant de longues minutes, l'ont vu rester en contemplation devant l'hostie consacrée en prononçant les derniers mots de la prière eucharistique. Jour après jour, l'abbé Stock a mené et enduré le combat spirituel, mains nues et bras ouverts pour la rencontre fraternelle. Avec lui, c'est l'amour du Christ qui pénètre dans les cellules obscures pour aller fortifier, aider, soutenir ceux qui voudront bien l'accueillir, en commençant par se faire accepter, bien qu'il soit allemand. Dans cet enfer carcéral, il rencontre des catholiques fervents, des incroyants, des communistes, dont beaucoup, dit-il, gardent une étincelle de foi chrétienne, des juifs pratiquants. Certains refusent de lui parler ou soupçonnent cet homme d'être un espion de la Gestapo. Non, disent les autres, ce prêtre est bon et il l'accueille. Avec eux, il prie, leur apporte la communion, les écoute, leur rend service. Edmond Michelet écrivait « Il apporte la paix et possède d'inépuisables réserves de force. Il rayonne d'une joie spirituelle. Il s'efforce d'apporter à chacun le réconfort des nouvelles, une Bible, une image pieuse, une lettre cachée dans les larges poches de sa soutane, du papier et des crayons, bien que ce soit interdit. » Il mémorise le visage de chacun, son nom, son numéro de cellule, le livre demandé, le message oral à transmettre à sa famille ou à la résistance. Aux prisonniers, il donne des nouvelles de leur famille, leur glisse des mises en garde et des conseils, leur apporte des informations sur leur situation. Rencontre éprouvante, l'abbé revivant face à une mère, une sœur, une amie, ce qu'il a vécu dans la cellule, en rencontrant cet homme dans l'attente d'une condamnation ou d'une exécution. Tant d'actes confiés à son journal seront connus bien plus tard, lorsque la tourmente sera passée. On ne saura jamais tout le bien qu'il a fait. À demain.